La vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Perte d'un proche, accident, catastrophe, des drames inattendus, exceptionnels parfois, poussent des femmes et des hommes ordinaires à repartir de zéro. J'ai voulu en savoir plus sur la façon dont ces gens ont affronté ces épreuves de la vie auxquelles ils n'étaient absolument pas préparés. Certains ne pariaient pas cher sur leur chance de s'en sortir, et pourtant, ils ont réussi. Comment trouver la force de se battre quand on est au plus mal ? À quoi se raccroche-t-on ? Et comment inventer la vie d'après ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Mathieu. La vie de ce père de famille a basculé à cause d'un virus, le H1N1. Je suis Olivier Delacroix, bienvenue dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ».
Son histoire donne des frissons. Mathieu est un véritable miraculé.
Mathieu.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Bien, très bien. Ravi de passer quelques jours avec vous.
Ouais, toi aussi. On est bien.
La grippe A, souvenez-vous, elle avait déclenché un vent de psychose à l'automne 2009. Tout le monde l'a redouté. Une psychose qui avait poussé Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, à acheter par précaution près de 100 millions de vaccins. Du jamais vu.
Bon Mathieu, il y a à peu près 2 ans, vous avez emmené vos enfants se faire vacciner.
Ouais, Lola et Jules.
Contre la grippe.
Voilà, pendant cette fameuse pandémie grippale,
ouais.
Avec ces gymnases qui étaient organisés un petit peu partout, où on vaccinait.
Quel âge
Lola avait 8 ans et Jules avait 3 ans.
D'accord.
Donc je les emmène. Étant asthmatique, j'avais également ma prescription, donc j'y vais, mais j'étais enrhumé ce jour-là et... L'infirmier qui était là me dit, bah écoute, je le connaissais, hein, me dit, reviens dans 15 jours parce que je peux pas te vacciner, il faut que tu sois guéri, ce sera mieux. Je repars et pris dans le boulot, le stress, la vie, quoi, et puis par négligence, je n'y retourne pas.
La fin de l'hiver 2009 arrive, la pandémie s'est largement dégonflée, la panique aussi. Mathieu, jeune père de famille divorcé, mène à nouveau une vie de célibataire. Commercial gros bosseur le jour, il se transforme en fêtard invétéré la nuit. Et c'est sûrement cette mauvaise hygiène de vie qui est à l'origine du sale rhume qui le cloue au lit avec une grosse fièvre en ce mois d'avril 2010. Un matin, au réveil, Mathieu a vraiment du mal à respirer. Il appelle un copain infirmier qui vit tout près de chez lui.
Le dimanche matin, l'infirmier revient une deuxième fois pour me faire une seconde injection. Et là, il juge qu'il y a un souci. Il remarque que j'ai les bouts de doigts bleutés, donc qui est un signe de manque d'oxygène dans le sang.
Si je comprends bien, c'est l'infirmier qui prend la décision.
Qui dit à ses collègues pompiers qui étaient là, qui m'avaient mis le masque d'oxygène, qui leur dit, en gros, je le prends sur moi, vous l'emmenez au centre hospitalier, qui est à 10 km à peine. Hein.
D'accord.
Et les pompiers m'emmènent. J'arrive aux urgences.
Mm-hmm.
Et là, on me fait des examens de routine, prise de sang. Et au bout d'une vingtaine de minutes, je vois que ça s'affole autour de moi. Et on me dit qu'on va m'endormir pour me mettre un tuyau dans la gorge pour m'aider à respirer.
Mais à aucun moment, vous ne vous dites dans votre tête, voilà, je suis
Non, quand on me dit qu'on va m'endormir, on me dit là, bon, je connais un petit peu... la vie, quand même, et je me dis, bon, là, c'est quand même sérieux, on prend pas la décision d'endormir quelqu'un. Voilà, donc on m'endort, on me demande de passer un dernier coup de fil, c'est un peu dramatique quand même, mais un coup de téléphone, et j'appelle ma maman pour lui expliquer, je peux pas trop finir la conversation, je m'en souviens bien, c'est une infirmière qui est autour de moi, qui continue, et là, je me sens partir.
Et que se passe-t-il ensuite ?
Donc c'est mes proches qui me l'ont raconté. Donc on diagnostique le virus H1N1. Donc là c'est la panique, ça n'existe plus à cette période. Donc c'est un plan d'urgence, enfin pas un plan d'urgence, mais on met mes proches en quarantaine. Mais tout ça, bon, c'est que des choses qu'on m'a racontées. Hein. Donc je suis pas stabilisé, ça se dégrade toute la nuit. Donc le lendemain matin, je suis transféré à Lille. Avec des SAMU et surtout avec, je dis bien avec des SAMU, avec deux SAMU, puisque je suis branché sous circulation extracorporelle, c'est-à-dire que on m'oxygène le sang à l'extérieur de mon corps.
Donc là, vous êtes dans un état plutôt critique.
Ah, critique, oui. Pronostic vital engagé.
les parents de Mathieu débarquent au CHU de Lille. Avant ce drame, entre les parents et le fiston, ça n'était plus vraiment ça. Trop fêtard, trop débridé pour eux, ils s'étaient éloignés les uns des autres, jusqu'au point de ne plus se voir que très rarement. Et tout d'un coup, devant la gravité de la situation, ils prennent conscience qu'ils ne le reverront peut-être plus jamais vivant.
On arrive à Lille, réanimation, et là on est reçu par les spécialistes, les internes, les médecins. Et là, on vous remet dans une salle.
Vous attendez à nouveau.
Ah, ça c'est les moments les plus, pas les plus pénibles, mais les moments où ça marque énormément quand on vous met autour d'une table, qu'on vous regarde dans les yeux et qu'on vous dit, bon, vous savez, il faut pas espérer, hein. Vous savez, c'est extrêmement grave. Il y a peu de chances de s'en sortir.
Vous aviez l'impression à ce moment-là qu'on vous préparait
tout à fait,
au décès de Mathieu.
Ah, absolument.
Oui.
On nous a donné un sac avec un inventaire et un sac avec tous ses vêtements. Voilà, là c'était fini. Il était en chemise et puis c'était affreux.
À chaque instant, la famille vit dans la crainte du dernier souffle de Mathieu, qui va finir par plonger dans un profond coma. C'est le début d'un trou noir qui va durer près de 70 jours. Ses parents, très affectés, ne désarment pas. Pas un jour ne s'écoule sans qu'ils ne soient au chevet de leur fils.
Quelle attitude vous aviez, vous, vis-à-vis de Mathieu? Parce que vous étiez tous les jours à l'hôpital.
On était à côté de lui.
Vous lui parliez, vous le touchiez.
On caressait, on massait.
On pouvait le voir, parce que bon, il y a un moment... Mais bon, pour nous, c'était important de lui tenir la main, de lui parler. On essayait de lui faire passer un peu de...
D'énergie.
On s'accroche à tout. Hein.
Cette présence, elle a été capitale?
Bien sûr. Même le personnel hospitalier... Mmh. Du coup, ils se sont trouvés entraînés par nous. On s'est vraiment tous donné de la force.
Maintenu dans un coma artificiel, l'état de santé de Mathieu va encore se dégrader. Le virus H1N1 est stoppé, mais de multiples infections ont pris le relais. Pour ses proches, c'est un véritable cauchemar. Pourtant, son organisme lutte et résiste. Mathieu se bagarre contre la mort.
Vous avez découvert quelque chose que vous ignoriez chez votre fils, ce courage, cette force?
Ouais, c'est une question à la fois délicate et embarrassante. Parce que bon, Mathieu, c'est notre fils qu'on avait un peu perdu par sa vie qui n'était pas validée par moi et qui n'était pas notre vie d'ailleurs. Mathieu, il aime le monde. Il aime s'amuser, il aime la fête, quoi.
Ouais.
Et bon, il était quand même parti un peu loin.
Il s'était un peu égaré.
Un peu écarté de la famille aussi. Hein. Mm-hmm. Et suite à ça, bien sûr, cette maladie, on l'a tellement... Le jour, la seconde où Mathieu est tombé, pour moi, c'était... Il n'y avait pas de dire, t'as pas été sympa avec moi, écoute, hein, après tout, tu vas payer. Non, non, pas du tout, c'était... Très fort.
Ouais.
Ouais. De voir son fils dans cet état-là.
Et c'était très fort sans doute de le voir batailler
c'était,
comme
c'était,
il
avait. Pour moi, c'était le perdre deux fois. Le perdre avant, parce que on n'avait plus de contact. Et par la maladie.
Ouais.
Au bout de deux mois, son état ne s'est toujours pas amélioré. L'équipe médicale est formelle, il n'y a plus d'espoir. La famille donne alors son feu vert pour débrancher la machine qui oxygène son sang. Ses proches se préparent à la fin. Inerte et endormie, Mathieu aurait-il entendu cette conversation qui s'est déroulée dans sa chambre?
Donc en fait, le cauchemar, c'est vraiment votre famille proche qui le vit. Vous, pendant ce temps-là, vous dormez.
Oui.
Mais au bout de 70 jours, vous vous réveillez.
Oui.
Est-ce que vous avez souvenir de ce jour?
On prévient mes parents qu'on va débrancher cette machine parce que apparemment ça ne sert plus à grand chose.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement on annonce à vos parents que vous êtes condamné?
Mes parents le prennent comme ça, oui.
D'arrêter?
Oui. Et je me réveille la veille de... Enfin, je reviens à moi où je donne des signes de vie, de conscience, la veille de ce débranchement prévu.
Voilà. C'est incroyable.
Le jour des 4 ans de mon fils, ouais, de Jules.
Miracle ou signe du destin, peu importe. Mathieu est en vie. Pour ses proches, c'est la délivrance. Son frère et sa sœur n'en reviennent pas. Mathieu a réouvert les yeux.
Vous avez cru bon nombre de fois que vous étiez en train de le perdre.
Ouais, c'est ça.
Il est parti beaucoup de fois, de toute façon, il est revenu. C'est un battant. Je pense qu'il s'est battu.
À votre avis, ça a contribué vraiment, cette présence, lorsqu'il était dans le coma? Quelle idée vous avez aujourd'hui?
Je pense que ouais, ça a contribué. Ce qui est bizarre, c'est que pour moi, enfin, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'était un besoin d'y aller.
Ouais, moi aussi. Et là, j'ai un manque de.
Pour rien voir, parce que c'était quelqu'un allongé avec des bruits de machine. C'était même terrifiant, mais moi, j'avais besoin. Quand j'étais pas pressé de repartir. Et quand j'étais reparti, je m'ennuyais. J'étais pressé d'y retourner.
Moi, actuellement, j'ai un manque de pas y aller.
Ah ouais, bah moi, c'est pareil, des fois.
Encore aujourd'hui
ouais.
De pas avoir le rythme d'aller à Lille.
Qu'est-ce qui vous manque, en fait? Parce que j'ai l'impression que...
Moi, j'arrive pas à l'expliquer ce qui me manque.
C'est cette grosse... Le contact cette avec... émotion.
Ouais, voilà. Et à refaire,
ouais, peut-être, voilà. C'est ça, je pense.
Mathieu prend alors conscience de son état. Son corps est totalement paralysé par les effets du curare. Il a perdu 30 kilos. Il se nourrit grâce à une sonde et respire artificiellement. Il est prisonnier dans son lit.
Quel souvenir vous gardez de ce réveil?
De la tristesse. Je pense que autant mes proches étaient heureux, c'était terrible pour eux, c'était extraordinaire. Moi, de la tristesse. Parce que j'ai l'impression, enfin, je ne suis plus rien. Je suis comme un légume dans un lit, branché de partout. J'ai mal. Je n'ai pas le droit de boire, de manger. Je ne comprends pas, ouais. C'est affreux. Mmh. Là, c'est mon cauchemar à moi qui démarre.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous dites ça va rester comme ça, je suis paralysé à vie?
C'est presque le pronostic qui est lancé. Hein. Qu'on n'est pas à l'abri, toujours à l'abri d'une greffe des poumons, que remarcher... Il y a une seule chose qui était rassurante, c'est que le cerveau n'avait pas été touché, ce qui était exceptionnel quand même. Mmh.
C'est-à-dire que le cerveau a toujours été irrigué?
Oui.
Voilà.
Je me souviens, dans ma tête, je ne peux pas en parler, je ne peux pas... De tout, des numéros de téléphone, des non-numéros de carte bancaire, enfin de tout. Je me souviens de tout.
Ça, c'est les premiers signes qui vous font penser que...
Oui, mais eux ne le savent pas. Je
non,
peux pas
puisque
parler.
Vous ne pouvez pas parler.
Voilà.
D'accord. À partir de quel moment vous arrivez à communiquer avec vos parents ou vos proches?
Une petite semaine après, quand j'ai réalisé, donc on peut communiquer, c'est-à-dire qu'ils arrivent, je ne sais pas comment ils ont fait, mais à lire sur les lèvres, sur mes lèvres. Et puis des clins d'œil. Alors ils avaient fabriqué un espèce de petit abécédaire où ils passaient leurs doigts et j'arrêtais sur la lettre pour former un mot, quoi.
Durant ces deux mois, à partir de votre réveil, est-ce que vous avez vu vos enfants?
Non. Non.
Ils avaient interdiction de venir vous voir?
Non. Alors, certains médecins le conseillaient.
Oui.
D'autres n'étaient pas trop chauds. Et puis...
Et vous?
Non, je ne voulais pas. Non. Non. Vous rendez compte, c'est traumatisant. Je veux voir mes enfants, mais pas dans ces conditions-là. Je ne veux pas qu'ils me voient comme ça. Et je ne regrette pas aujourd'hui. Vraiment.
Vous avez été fort quand même de... Vous les avez préservés, bien évidemment, mais...
J'ai pleuré, vous savez. J'avais leurs photos en face de moi, plein de photos, plein de dessins. Et puis quand je voyais les photos de nous, l'horreur, ouais. Donc j'ai rêvé de ces retrouvailles, ouais. Vraiment.
Mais ces retrouvailles auront lieu bien plus tard. 15 jours après son réveil, Mathieu rechute brutalement. Infection généralisée. Une septicémie s'est déclarée. La mort est à nouveau de la partie. Les médecins vont alors tenter une opération de la dernière chance.
On décide de pratiquer une thoracotomie, donc c'est-à-dire qu'on fait un gros trou dans le thorax, assez important. On enlève les côtes qui sont devant. Je vous schématise ça parce que c'est certainement plus complexe, mais pour drainer cette cage thoracique, parce que les drains ne sont plus efficaces, quoi, tout simplement. Et ça marche. Plus d'infection, plus de fièvre. Je ne ferai plus jamais de fièvre après.
Après avoir terrassé le virus, Mathieu a vaincu la septicémie. Inespéré, incroyable. Même l'équipe médicale du CHU de Lille n'en revient pas. Il est transféré au centre de Berck, où sont admis les polytraumatisés pour suivre un programme de rééducation. Là, entouré des siens, il va entamer sa convalescence.
Berck marque une étape très importante, puisque c'est là que vous avez été transféré.
Je suis arrivé ici par les airs, en hélicoptère. On s'est posé sur le tarmac là-bas de l'hôpital et la première chose que j'ai vue, alors il faut quand même resituer les choses, j'étais sur un brancard dans un hélicoptère médicalisé bien entendu du SAMU et branché de tous les côtés, ne pouvant bouger et la première chose que j'ai vue quand ils ont ouvert les portes, j'ai pu tourner les yeux et voir la mer. Et il faisait exactement le même temps qu'aujourd'hui.
Voilà. Ah oui. Ouais. Où vous parlez de ce centre comme... une résurrection.
Ouais,
vous, vous employez ce mot-là, résurrection.
Oui,
pourquoi résurrection?
Parce que on ne se rend pas compte quand on vit tous les jours, normalement, comme vous, comme plein d'autres, que de respirer, marcher, bouger, pouvoir saisir quelque chose avec ses mains, manger, boire, enfin voilà les choses de la vie. Et on les oublie en fait au quotidien. On oublie que c'est si important. On s'en rend plus compte. Normal, hein. C'est tout à fait normal. Donc voilà, ici, je réapprends, j'ai le bonheur, parce que quand vous n'avez pas mangé, j'étais nourri, mais pas mangé.
Personne, ouais.
Ouais. Quand vous n'avez pas mangé pendant 4 mois et demi, et que vous vous souvenez en plus que vous avez votre dernier repas en tête, c'est terrible.
Est-ce que par moment, il vous arrivait de vous dire je suis revenu à l'état d'enfant?
Oui.
De bébé?
Oui, oui. Vraiment, j'insiste, mais tout réappris. C'est ce qu'on apprend quand on est gamin. Ouais. Mais j'ai pleuré. Je n'avais pas pleuré depuis très longtemps. Et je dis toujours que je ne pense pas avoir pleuré autant quand j'étais enfant. Parce que je me demandais... pourquoi la vie m'avait fait ça, quoi.
Est-ce que c'est ici que vous allez revoir vos deux petits?
Oui, quelques jours après.
Comment ça s'est passé?
J'ai toujours autant de frissons quand j'en parle, mais ça, je pense que tous les parents peuvent imaginer cette scène. Et les enfants viennent, m'ont pas vu depuis 4 mois et demi. Et ils ont surtout pour Lola qui a 9 ans et qui a cru que son papa était mort et que son papa allait mourir tous les jours. Je pense que ça a été une angoisse. Ils voient leur papa amaigri, plus de cheveux, des tuyaux encore présents. On avait essayé d'en enlever et d'en cacher un maximum. Surtout celui de la trachéo. On avait essayé de... C'est traumatisant quand même de voir ce tube entrer dans... Et les enfants ne passent pas le seuil de la porte. Ils pleurent. Jules est dans les bras. Lola est... Elle a 10 ans, donc elle n'est pas dans les bras. Mais voilà, alors moi je suis content, je pleure forcément, mais je souris quoi, en même temps. Je suis heureux, vraiment très très heureux. C'est, je pense, un des plus beaux moments de ma vie, ouais, vraiment. Mm-hmm. Donc la première fois, ben, il ne m'approche pas. Et le lendemain, on renouvelle. Et là, Jules, on le pose sur mes genoux. Et Lola vient et me parle, toujours en pleurant. Et, c'est extraordinaire, c'est un bonheur intense, ouais.
En 2 mois, au prix d'efforts immenses et intenses, Mathieu va retrouver son corps d'avant, récupérer ses muscles, reprendre les 30 kilos perdus et faire preuve d'un mental d'acier qui le surprend lui-même. Mais sans le soutien inconditionnel de sa famille, il n'aurait certainement pas surmonté cette épreuve.
En réanimation, j'ai toujours pensé qu'il fallait croire. Toujours croire, parce que tout est possible, la preuve en est. Et ici, j'ai appris à me battre, ouais. À me battre pour pousser sur mes bras qui étaient faiblards, pour montrer à ma famille que quand ils venaient, que je souffrais, c'était dur, hein, c'est très dur de le faire, mais que j'arrivais à me redresser seul. Ou alors après, chaque fois c'était les larmes, hein, quand j'arrivais à me mettre debout, voilà, donc à me battre, oui. C'est un combat, donc voilà, combat, mais on va continuer différemment.
Aujourd'hui, Mathieu n'est plus tout à fait le même homme. Cette expérience aux portes de l'au-delà l'a radicalement transformé. Mathieu a retrouvé une complicité avec ses parents. Il semble prêt à affronter sa deuxième vie, comme il l'appelle, avec la sérénité de celui qui revient de très loin. Une sérénité que je pourrais presque lui envier.
L'amour dans tout ça.
Il vient ou il vient pas, hein, ça. C'est pareil pour tout le monde, sauf que à partir du moment où physiquement vous êtes affaibli, c'est peut-être plus compliqué.
Moi, dans mon cas, ça ne l'a pas été parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a été très touché par ce qui m'est arrivé.
Ça veut dire que c'est quelqu'un que vous avez rencontré un peu grâce à tout ce qui vous est arrivé ?
Oui, on peut le dire, oui.
Comment ça s'est
disons qu'on
passé,
s'est trouvé toujours avec cette page Facebook qui existait.
Donc la page Facebook Déconne pas Mathieu,
ouais, qui...
faite par vos copains.
J'ai rencontré Mélanie que je connaissais déjà de vue, de nom. Et voilà, grâce à cette affaire, on a eu l'occasion de se retrouver. Et je suis vraiment très heureux, elle m'apporte énormément.
Ici, cette grippe H1N1 n'était pas passée par là. Est-ce que vous y pensez à ça parfois ?
Mais je serais passé à côté de tout ce bonheur.
Ouais.
Vraiment.
Donc c'est assez incroyable.
C'est une chance, un don du ciel, un cadeau du ciel.
C'était votre route en tout cas.
Oui. Ouais.
Mathieu a plein de projets. Il écrit aujourd'hui un livre sur son histoire. Il va créer une société avec son père, quelque chose d'inconcevable il y a encore quelques mois. Au moment de le quitter, je ressens que de tout ce cauchemar, c'est tout un clan qui est né. Une véritable famille où chacun semble avoir acquis une notion qui échappe encore à beaucoup d'entre nous et que l'on appelle le bonheur. Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rask, Clémence Olivier et Kevin Ousty. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir du lundi au jeudi à l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. Alors je vous dis à très bientôt.